En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Annick Caïd et Sijozan écrit sur son pays des mille collines avec plein de quelqu'un dans la tête. Speciosa, sa mère, Aimé, son petit frère, des cousines, des tantes, tous jetés dans la fosse commune du génocide Tutsi. 1 million de Tutsis finis à la machette ou brûlés vifs dans des églises au printemps 1994, c'est-à-dire 77% de la population Tutsi du Rwanda. Pas de sépulture. Juste l'écriture pour porter les corps jusqu'à leur dernière demeure. Une demeure ultime qui a pris forme dès 2004 pour notre invité avec Nous existons encore. Avec son association aussi, Études sans frontières, pour permettre aux orphelins des génocides d'aller à l'école. Et puis avec ce nouveau récit témoignage, Même Dieu ne veut pas s'en mêler, paru au Seuil, où l'on sent qu'à chaque mois d'avril, Annick Caïd a tragiquement de nouveau 14 ans. Bonjour à vous, Annick Caïd Sijozan.
Bonjour.
Est-ce que, une petite précision d'entrée de jeu, est-ce que vous préférez que l'on dise génocide rwandais ou génocide Tutsi ?
Génocide des Tutsis. Parce que c'est les Tutsis qui ont été tués et pas les Rwandais. Les Rwandais Tutsis ont été tués parce qu'ils étaient nés Tutsis. Donc c'est plus juste de dire génocide des Tutsis. Du Rwanda, si on préfère.
H. Ash comme home sweet home.
Vous qui êtes né en 79, vous avez grandi dans le sud du Rwanda, oui. À Butare, dans le quartier de Ngoma, où là, la mort fait une première entrée dans votre vie en 1988. Racontez-nous.
Oui, en 1988, le 22 mars, très exactement, j'ai perdu mon père et ma petite sœur. Et ma petite sœur, Nana, était malade. Elle avait une maladie, alors je ne sais pas le nom, j'ai jamais su. En tout cas, elle avait des problèmes respiratoires très graves depuis sa naissance. Et mon père, qui était médecin, a fini par trouver l'occasion d'aller la faire soigner en Belgique. Et le jour où il devait reprendre l'avion retour, il y a une femme qui s'est suicidée dans l'hôtel où ils étaient. Elle a mis le feu, je pense, sans faire exprès. Elle a laissé une cigarette sur un lit qui a tout enflammé. Et mon père et ma sœur ont trouvé la mort dans cet hôtel-là.
Il y a un proverbe rwandais qui dit « L'être est dans le nom ». Alors, comment s'appelait votre père ?
Kayonga.
Qui veut dire ?
Qui veut dire « finira en cendres », enfin « sera descendre ». Kayonga, c'est « fondre ». Voilà.
Alors arrive avril 1994 et cette fameuse cuisine noire de suie où on vous retrouve, Annick Caïd Sijozan, prostrée. Qu'est-ce qui se passe dans ce home des sœurs auxiliatrices des âmes du purgatoire ?
Alors dans ce home, je m'y retrouve juste après que ma mère se soit fait tuer, que toute ma famille est parti. Je ne sais pas encore qui est vivant ou qui est mort, mais pour moi, ils sont tous morts. Ma sœur reviendra quelques temps plus tard. Elle a été laissée pour morte. Et je suis là. Et plus rien de ce qui existait avant n'existe encore. Enfin, n'existe. Pourtant, mes voisins sont toujours mes voisins. Le home est toujours le home. Le home, c'est un endroit où vivaient les... Ma mère travaillait pour une école. Les enseignantes femmes pouvaient loger dans une partie de l'école qu'on appelait le home. C'est une série de chambres qui se suivent. Et un des collègues de ma mère avec sa femme s'était caché, enfin s'était mis là, parce que le génocide avait commencé au Rwanda. Ce n'était plus que des tueries du matin au soir. Donc ils étaient là et je me suis retrouvée là parce qu'eux-mêmes étaient dans ce home. Et c'est un moment que je ne peux qu'écrire parce que c'est difficile à raconter. C'est un moment où je ne suis ni vivante, ni morte, ni enfant, ni adulte. C'est un moment où je perds pied, je pense.
Alors votre écriture, effectivement, elle est très claire et terrible en même temps, et elle campe cette situation de vous, orpheline, au service en même temps des tueurs de votre mère.
Un garçon et une fille ont 18 mois. Je suis leur bonne depuis 3 jours, depuis que leur père a fait tuer ma mère. Je suis leur bonne à tout faire, la serpillière où la famille s'essuie les pieds. Avant d'être leur torchon, quand j'étais encore l'enfant de quelqu'un, nous étions voisins. Nous habitions 2 petites maisons mitoyennes à 100 mètres d'ici. Les jours où Adolphe et Nicole étaient pris par un enterrement ou un mariage, et que leur bonne était absente ou malade, je gardais les jumeaux. Ma mère m'en surveillait pour eux. Nicole et Adolphe répétaient en boucle à maman que sans elle, ils ne savaient pas ce qu'ils deviendraient. Ils mentaient. Sans elle, ils sont restés exactement les mêmes, des êtres gentils avec beaucoup de haine.
Annie Caillé-Tessier-Jauzan, avec ce récit absolument implacable qui pose les actes des tueurs, on suit le fleuve de cette haine ordinaire jusque dans les propos de cette gentille Nicole, comme vous dites, qui un jour, en rentrant du marché, donc vous êtes à son service, vous êtes la petite bonne, vous apprend ce qu'est devenu le corps de votre mère.
Oui. Un jour, elle part du home où nous étions en me disant « Je vais prendre la température, je vais voir comment ça se passe en ville. » Donc elle part, elle revient et elle me retrouve dans la cuisine où j'épluche légumes, j'allais faire à manger, et elle me dit « La question des Tutsis a été réglée. » Kabatutsi Kachobote en Kinyarwanda. Et elle me dit qu'elle a vu le corps de ma mère et qu'il se fait manger par les chiens. Et j'ai un moment où je me dis, c'est l'image qui me vient, je me dis, ah, il faudrait que j'aille la couvrir. Que j'aille lui mettre un pagne dessus ou quelque chose comme ça, mais que son corps ne reste pas à la rue. Mais dans la même seconde, je me dis, elle veut me faire tuer. Elle veut que je sorte pour que je me fasse tuer. Et alors je ne bouge pas. Je ne bouge pas, mais je pense que... Enfin, je ne le pense pas, je le pense maintenant, longtemps après, que quelque part, elle a quand même réussi à atteindre une partie de moi.
Mais on se demande justement, puisque vous vivez avec les tueurs de votre mère, comment vous, la petite orpheline de 14 ans, qui vivait dans ce Rwanda qui vomit sa haine du Tutsi, hein, vous décrivez des hordes de Hutu débarquant le soir chez les familles de cafards, puisque c'est le nom que l'on donne aux Tutsis. Comment vous, une frêle petite orpheline de 14 ans, vous en sortez vivante?
Vivante, c'est... je sais pas. Enfin, en tout cas, je respire. J'ai l'air de vivre, mais au fond de moi, je ne sais pas si je suis vraiment tout à fait encore... vivante, et je ne sais même pas si c'est des capacités que je vais récupérer entièrement un jour. Ce n'est pas ni un choix, ni un combat, c'est des circonstances qui font que je me retrouve là. C'est-à-dire que le jour où toute ma famille se fait tuer, des tueurs me gardent pour leur ouvrir les portes. Ma mère, elle était gestionnaire dans cette école. Et ils ont, quand on nous a pris chez nous, j'ai pris ses clés. Je me suis dit, ah, elle part sans ses clés, donc j'ai pris ses clés. Machinalement, et un des tueurs a vu que j'avais les clés et il m'a gardé pour ouvrir les portes. Alors il n'y a aucune rationalité là-dedans, parce qu'il pouvait casser les portes. En tout cas, il m'a gardé et ma mère a été tuée sur place, mais le reste de la famille est parti en camion, parce qu'à l'époque, à la radio, ils disaient de ne plus tuer les gens chez eux parce que c'était filmé par des satellites et qu'il fallait aller les tuer directement aux fosses communes. Et c'est là où ils ont pris le corps de ma mère et le reste de ma famille vivante. C'est là où ils auraient jeté ma mère au bord de la route. Mais je n'en ai jamais eu vraiment de preuves parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps de ma mère. Et à part les paroles de Nicole, je n'en ai jamais entendu parler par quelqu'un d'autre. Et le camion qui les avait amenés devait revenir me chercher. Alors en lisant des livres d'histoire, en écoutant d'autres témoignages de ma ville, c'est le jour où il y a eu des centaines de morts dans une église. Alors, est-ce que le camion est parti là-bas? Je ne sais pas. En tout cas, le camion n'est pas revenu. Et les tueurs m'ont laissé avec Adolphe et Nicole. Ils sont revenus me chercher le lendemain. Adolphe et Nicole m'ont redonné. Et là, il y avait un militaire qui passait, qui a pensé qu'on m'a gardé pour me violer. Et il avait beau être d'accord pour qu'on tue, il n'était pas d'accord pour qu'on viole. Et ce jour-là, c'est lui qui m'a sauvée.
Mais vous avez échappé plusieurs fois à la mort. Est-ce qu'il a fallu que vous mentiez sur votre identité pour vous sauver ?
Il y a un moment où je me suis vue, les camions étaient partis, les tueurs n'étaient pas encore partis. Et j'étais au milieu de ces hommes, c'est vraiment peut-être une centaine, je ne les ai pas comptés, mais c'était un guitel, on appelait ça un attroupement. Et j'ai reconnu un militaire que je voyais beaucoup. Il y avait des barrières au Rwanda depuis 1990, où on surveillait les cartes des Tutsis, etc. Et il y avait un militaire que je voyais à la barrière près de chez nous. Et je lui ai dit, mais toi, tu me connais. Mon père était mort il y a longtemps et j'ai dit, vous ne suis pas la fille de qui vous pensez. Mon père était Hutu. Et alors j'ai dit, est-ce que vous tuez les Hutus aussi? Et il m'a dit, on va vérifier. Ils sont partis et le lendemain, ils sont revenus.
En sachant que vous étiez en fait Tutsi?
Oui.
Et donc, comment vous réchappez à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est là où il y a le militaire qui passe et qui me sauve parce qu'il pense qu'il ne faut pas violer des petites filles.
Comme vous le dites, Annie Kayitessi, vous n'étiez pas prête pour la mort. Vous parlez de barrières, effectivement, dans ce Rwanda et vous abordez évidemment la question de la responsabilité de la Belgique dans cette question ethnique parce que cette question a traversé très tôt la vie de votre mère qui est née en 1954. Donc, question d'historien quasiment, mais comment, c'est pour rappel, comment naissent ces tensions entre Hutu et Tutsi?
Alors, moi, je suis née dans un Rwanda où tout cela existait comme tel, où c'était...
Établi.
Établi. L'histoire dit que les Belges, ils voulaient établir, je pense, un état civil. Ils ont classifié les gens selon leur type physique, etc. Et que ce qui était des... groupes sociaux, je dirais, il y avait peut-être des éleveurs et des agriculteurs, sont devenus des ethnies. Ce qui en fait est absurde puisque les Tutsis et les Hutus parlent la même langue, ils ont le même dieu et ils habitent le même pays depuis que le Rwanda est Rwanda. Et surtout, ils ont une autre organisation dans le Rwanda, des clans dans lesquels on retrouvait aussi bien des Hutus que des Tutsis. Et les Belges établissent cela et ils écrivent cela sur les cartes d'identité. Et par là, longtemps avant, ils signent déjà la mort de... Naya kanigi kange mama yandazashaje sinzaho kanigiriye ndakabaroga. Je perds le souffle, de ma mère je l'ai cueilli, il s'échappe.
P comme pourquoi.
Alors ce récit témoignage intitulé « Même Dieu ne veut pas s'en mêler » est aussi le temps pour vous, Annick, plus de 20 ans après le génocide. C'est le temps des questions d'enfants, les questions de vos enfants. Que dire à vos petits, à vos tout-petits sur ce génocide et puis surtout dans quelle langue?
Effectivement, mes enfants ont maintenant 9 et 5 ans. Ça fait longtemps qu'ils posent des questions. Ils se sont bien rendus compte que je n'ai pas de parents. Et l'idée de vraiment écrire ce récit est venue des questions de ma petite fille qui avait 3 ou 4 ans. Une nuit où on était ensemble, on vit en Ouzbékistan, donc on venait d'arriver en Ouzbékistan, c'était vraiment le premier soir, où elle ne veut pas se coucher, elle insiste pour que je lui dise comment est morte ma mère. Donc je lui explique qu'elle s'est fait tuer par des méchants, qui ne voulaient pas qu'elle vive. Et alors elle me dit, mais il ne savait pas que c'était une maman. Et je dis, si, il savait que c'était une maman, et j'étais là. Et là, elle fond à larmes. Et puis elle me dit, je suis tellement très... Enfin, ça m'émeut quand je le dis.
Bien sûr, mais il y a toute une... un apprentissage aussi autour de ce qui est votre première culture, parce qu'il y a cette langue. Comment raconter ce génocide dans cette langue?
Je me rends compte que je ne peux pas lui expliquer en prenant soin de ne pas la blesser comme le Kinyarwanda peut me le permettre. parce qu'elle ne comprend pas le Kinyarwanda. En Kinyarwanda, j'ai l'impression d'avoir les mots les plus justes, qui disent en tout cas ce que je ressens de manière juste. Et mes enfants ne comprennent pas le Kinyarwanda. Et quand j'essaie de leur traduire en français, ça perd tout son sens.
Donc vous attaquez à la question évidemment de la transmission ou pas de ce récit traumatique. Vous qui écrivez cette phrase, « Je me dois d'être la tombe de ma mère ».
Oui. Parce que la dernière image que j'ai de ma mère, c'est Nicole qui me dit qu'elle se fait manger par des chiens. Et ça, je ne suis pas prête à l'accepter. Et la seule façon de la garder comme mère, ben je dois la porter. Je dois la porter. Il n'y a eu aucune terre pour la recevoir. Et je dois...
Et on craint les morts qui n'ont pas de sépulture et qui ne sont pas accompagnés jusqu'au bout du voyage au Rwanda.
Oui. Oui. Ce qui fait de nous des hommes, on croit au Rwanda, c'est que les hommes enterrent leurs morts. C'est ce qui nous différencie des animaux. Et en cela, peut-être les génocidaires, c'est ce qu'ils auraient pu réussir le mieux, c'est de nous changer en animaux, d'accepter qu'on n'enterre pas nos morts et que la vie continue. Et moi, je ne pense pas. Je pense que nos morts, on les porte. Les miens, je les porte. D'autres rescapés que je connaisse, c'est exactement ça. La mort, elle reste avec nous. Et après, c'est vraiment de savoir quoi faire avec. Dans la cuisine, chez le boiteux, j'aperçois l'endroit où j'ai vu ma famille pour la dernière fois. Les militaires les faisaient monter dans un camion pour les conduire à la fosse commune. Ma cousine Christine essayait de négocier avec eux. « Vous voudrez bien nous tuer par balle ?» Ils ricanaient. Elle leur souriait et demandait à nouveau « S'il vous plaît, vous voudrez bien nous tuer par balle ?» Aimé, petit homme, tu ne verras jamais le manège avec les chevaux.
Cette chanson rwandaise de Cécile Kayirebwa. Merci Annie Kayitesi-Josan.
C'est une berceuse. C'est une mère qui chante à son enfant, qui lui dit « Viens parmi nous et tu ne seras jamais seule parce que tu as une sœur, parce que tu as un père. Et puis si tu as du chagrin, il y a telle autre personne. Bon, » Elle sait tout l'entourage autour. Et c'est une chanson que je chantais beaucoup pour mon petit garçon quand il est né. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde autour de moi. Mais il y en a toujours, parce qu'on s'est reconstruit d'autres familles qui ne sont pas des familles de sang, mais qui sont des personnes qui nous aiment autant, ou même sinon plus. Donc je lui sentais ça avec toutes les personnes qui ont fait que ma vie vaut le coup d'être vécue aujourd'hui. Et en lui disant, ne pleure pas. Et puis on a telle aussi. Et puis tu as ton père. Et puis... ouais.
Sure.
pas se bercer d'illusions, donc c'est le lit, c'est le lot de celle qui est née dans ce pays des mille collines, ensanglantée par le million de Tutsis éliminés à la machette au printemps 94. Rescapée, c'est devenu le patronyme d'Annick Caïté-Sijosan, qui a tout perdu et qui témoigne inlassablement pour redevenir vivante, témoigner devant le tribunal des hommes et raconter devant tous les pourquoi de ses enfants. D'où cette longue réponse en forme d'écriture, récit intitulé « Même Dieu ne veut pas s'en mêler ». Alors je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez été évacuée en juillet 94 dans le Burundi, Annick, et puis vers la France en août 94, et puis récupérée par un orphelinat via l'association Terre des Hommes. Et après un début de vie en France à la fois difficile et accueillant, qu'on n'a pas vraiment le temps de raconter, vous avez demandé la nationalité française, et ça m'intéresse parce que vous êtes donc arrivée en France à 15 ans, orpheline, apatride, réfugiée politique à l'OFPRA, et là vous écrivez une lettre absolument incroyable au procureur de la République pour justifier de cette demande de naturalisation. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ?
Alors c'était une très longue lettre où je lui racontais absolument toute ma vie. On avait les papiers de réfugiés, et la question qui se posait à l'époque, c'était qu'est-ce qu'on allait faire dans l'avenir. On pose des questions très tôt en France sur ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut être médecin, etc. Et je voulais être médecin, comme mon père. On m'a fait comprendre que je ne pourrais jamais être médecin, je ne parlais pas français, et j'avais 15 ans et j'étais encore en 5e. Donc on m'a vraiment fait comprendre que ce n'est pas possible. Alors je me suis dit, je ferais bien infirmière. Ça avait l'air pas tout à fait possible non plus, mais pourquoi pas peut-être aide-soignante. Mais bon, on ne me contrariait pas trop sur ce point-là, mais seulement si je devenais française. Parce qu'on peut travailler dans les hôpitaux que si on est français, c'est ce que j'ai compris à l'époque. Et alors j'ai écrit au procureur de la République pour lui expliquer que je voulais devenir infirmière, que je voulais vivre en France, que je n'avais plus personne au Rwanda et que tout mon avenir ne dépendait que de lui. Mais c'était, je crois, j'ai écrit bien 12 pages. Donc là, je le résume, je ne m'en souviens pas très très bien. Et la famille d'accueil où j'étais n'y croyait pas. Mais j'ai eu la nationalité quelque chose comme en 2 mois.
Alors cette nouvelle patrie, vous l'avez à l'œil hein, depuis. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Lorsque, par exemple, vous tombez sur cette archive du 10 juin 1994 à Oradour-sur-Glane. Donc c'est ce petit village en Haute-Vienne où en 1944, 642 personnes sont massacrées par les Waffen-SS, par les nazis. Et 50 ans après, le président français, François Mitterrand, avait ces mots.
Au milieu des ruines, le silence. Un silence brièvement interrompu par le chef de l'État, le premier être venu à Oradour-sur-Glane dans l'exercice de ses fonctions.
Que cela recommence.
Là où, dira François Mitterrand, les morts ont pu se croire abandonnés.
Il appartient aux générations prochaines de bâtir un monde où les oradours ne seront plus possibles.
D comme 12 France.
Alors, pourquoi est-ce que vous souhaitiez revenir à Oradour-sur-Glane, Annick Caïté-Sijosan ?
Alors, au mois de juin, quand le président Mitterrand est à Oradour-sur-Glane, le génocide est en cours au Rwanda. Il est parfaitement au courant parce que c'est un pays ami, c'est un pays où il a une coopération militaires notamment très fortes. Ils ont entraîné les militaires rwandais, ils les ont armés et ils savent très bien qu'ils sont en train de commettre un génocide. On est au mois de juin, les Nations Unies ont déjà décrété que c'était un génocide, ils ont déjà mis un embargo sur les armes. Et là, François Mitterrand, il a ces mots, ça appartient aux générations futures que cela ne recommence plus. Et qu'est-ce qu'on fait des générations présentes ? Ils restent très silencieux. Et quand même, le gouvernement français, en tout cas les hommes politiques à l'époque, reste actif puisqu'il continue d'armer ces personnes-là.
Et on a la preuve plus ou moins récente de ce fait-là. Les autorités françaises ont effectivement sciemment réarmé les responsables des massacres en 94. Vous le savez puisque vous êtes tombé sur ce papier de Patrick de Saint-Exupéry, qui est le cofondateur de la revue 21. Et qui révèle donc à partir d'un témoignage très important de l'ancien officier de l'armée de terre, Guillaume Ancel, qui faisait partie de l'opération Turquoise, ce fait. Et cette décision a été prise à l'époque par... l'ordre lui-même a été signé par une personnalité importante.
Védrine.
Hubert Védrine, qui était donc le secrétaire général de l'Élysée. Et vous avez décidé de publier une tribune en réponse à cela dans le journal Libération. Une tribune intitulée « Si ma mère devait rester cafard », où là, Annick, vous vous adressez au président Macron.
Monsieur le président, réarmez-les. La révélation de cet ordre m'a replongé en ces temps-là. Réarmez-les. Je m'interroge, fin juin 1994. Mais pourquoi faire? Même le tueur l'affirmait en chantant, il n'y avait alors plus personne à tuer. Mouzet Kouchi, Menchouti, Ignez et Zachizé, réjouissez-vous, avec nous les amis, les cafards ont été exterminés. 23 ans, monsieur le président, que nous commandons pour que les nôtres ne restent pas exclus de la communauté des humains, celle qui a le droit, si ce n'est à la justice, au moins à la vérité. Vous avez déclaré avoir une seule mission, celle de nous rendre capables de nous battre. Nous priver de cela, c'est faire de nos morts des éternels cafards. Ma mère s'appelait Speciosa. Elle est née le 10 avril 1954. Elle venait d'avoir 40 ans, votre âge. Elle disait souvent « Umutima w'umuntu nibwo buryo bwe ». Pour maintenir la vie, le cœur ne peut pomper que de son propre sang. Quand je prends en main mes papiers d'identité français, mon cœur chavire, car j'ai l'impression que la France me demande d'oublier, en somme, de mourir à petit feu. Aujourd'hui, je dois me rendre à l'évidence. Pour que ma vie vaille la peine d'être vécue, je dois accepter que si ma mère devait rester cafard, si le million de personnes exterminées au Rwanda en partie par les armes livrées par la France devait rester cafard, alors je dois accepter de l'être aussi.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement au président Macron?
Je demande concrètement l'ouverture des archives de l'Élysée. Nous avons le droit de savoir. Nous avons le droit de pouvoir mettre des mots, de pouvoir comprendre ce qui nous est arrivé. Et c'est une chose qui est avérée que la France et d'autres pays ont armé les génocidaires. Il se trouve que je suis française, donc ça me concerne à ce niveau-là. C'est que être à la fois française et l'enfant de ma mère, c'est compliqué.
Je suis, j'étais, et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais, et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais, et resterai, moi, ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais, et resterai.
T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris. Cultrice ou pathéticienne. Féministe ou la ferme. Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel. Mécréant ou terroriste. T'es veuche ou bien t'es barbu. Conspirationniste, illuminati. Mythomaniste ou vendu. Rien du tout ou tout tout de suite. Du tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout tout de si. Flamand ou wallon, bras ballant ou bras long. Finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron. Hein?
Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes.
Vive Stromae sur RFI et puis son sens de la dérision avec Bâtard. C'est un titre qui a l'air de vous faire du bien, Annick Caïté-Sigeuzan.
Alors, nous sommes fans de Stromae dans la famille. Mes enfants adorent Stromae et il a cette façon de dire les choses qui, en tout cas, chez nous, nous habitent. On nous demande souvent d'où je viens. On dit à mes enfants qu'ils sont africains. Enfin, on nous met vraiment beaucoup dans les cases. Et il se trouve que nous, on se vit comme ni l'un ni l'autre. Et ma fille adore cette chanson et on en parle beaucoup parce qu'elle, elle nous dit... Elle est ni choco-choco, ni choco-vanille, ni vanille-vanille. Elle pense qu'elle vient de Tashkent parce qu'on vient en Ouzbékistan depuis qu'elle a 3 ans et c'est la moitié de sa vie. Alors quand elle dit aux gens « je viens de Tashkent », ils ne comprennent pas.
Elle donne du travail aux idéologues. Hein.
Oui, elle fait des secrets en russe parce que c'est la langue qu'elle entend peut-être le plus souvent. Enfin, c'est une chanson qui nous fait du bien dans la famille.
Quel est le mot de la langue française que vous préférez?
Amour.
Comment on dit ça en Kinyarwanda, tiens?
Urukund.
Urukund.
Oui.
Je dis ça parce que vous êtes auteur aujourd'hui. La langue française, c'est pas rien dans votre vie. D'autant que vous l'avez découverte à l'âge de 15 ans. Mais ça a mis du temps à ce que ça devienne votre langue d'écriture, le français?
Ça a mis du temps parce que J'ai mis à peu près déjà un an à comprendre ce qu'on me disait.
L'école, ça a été difficile. Hein.
L'école, ça a été difficile parce que je suis arrivée, je ne parlais pas du tout français. Je suis arrivée tout de suite au collège. Et vraiment, j'ai mis un temps à pouvoir ne serait-ce que reconnaître quand on appelait mon nom.
Le concept de la nature morte, par exemple, dans le cours de dessin, c'était particulier pour vous?
Alors, c'est comme la perspective et tout ça, je ne l'ai toujours pas saisi. On nous demandait de faire des natures mortes. Alors... des morts, j'en ai vu des tas. Et les morts que je voyais, c'est ça. Et je ne comprenais pas le concept. Et c'est devenu une langue d'écriture que j'affectionne particulièrement. Parce que je pense qu'elle me permet aussi de prendre un peu de distance avec tout ça.
Mais c'est une langue, votre langue d'écriture, qui a accueilli le Kinyarwanda. Il y a beaucoup d'expressions en Kinyarwanda dans votre écriture. Et vous expliquez bien dans ce roman qui est un roman sur la transmission, comment raconter le génocide à vos enfants. De quoi vous êtes faite en fait? De quelles expressions vous êtes faite? De quel univers intérieur vous êtes faite? Je l'évoquais tout à l'heure, la culture des salutations au Rwanda est tout à fait particulière et très riche. Un exemple.
Le matin, on dit Ngaramutse. Cela veut dire avez-vous passé la nuit? Vous n'êtes pas mort dans la nuit. Le soir, on dit Muramutse. Soyez vivant le matin. C'est une langue qui met toujours dans nos vies cette fragilité de l'existence. Effectivement, on peut être là le matin, ne plus être là le soir. Et il est vrai que quand je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, en France, que j'adore, juste lui dire bonjour, ça me paraît...
un peu juste.
Un peu juste, voilà. Oui.
Est-ce que vous auriez pu parler, est-ce que vous pourriez parler du génocide en Kinyarwanda?
Alors, je n'ai jamais témoigné en Kinyarwanda. Ça ne s'est jamais présenté.
Mais est-ce que le mot génocide lui-même existe en Kinyarwanda?
Non, il n'existe pas. Le Rwanda, on l'a emprunté du français ou de l'anglais, on dit génocide. Il n'y a pas de mot. Il y a le mot extermination, mais qui n'exprime pas tout à fait encore l'idée de génocide dans son entier.
Pourquoi est-ce que vous êtes allé à Auschwitz-Birkenau, ce camp de concentration et d'extermination nazie?
J'ai beaucoup témoigné. Depuis que je suis sortie du Rwanda, il paraît, alors je ne m'en souviens pas toujours de tout, mais il paraît que je racontais à tout le monde. Je n'avais aucune idée que les gens avaient pu savoir. Je me disais, si le monde avait su, on nous aurait sauvés, on nous aurait aidés. Donc je voulais que les gens sachent. Je témoignais beaucoup. Et il m'est arrivé de témoigner beaucoup avec des rescapés de la Shoah qui avaient 60 ans de plus que moi. Et il s'est trouvé qu'il y avait les 60 ans de la commémoration des camps. Et je crois que ça a été un moment important dans ma vie parce que j'ai compris ce que c'était que le génocide. C'est à Auschwitz que je l'ai compris. C'est quand on est arrivé, il y a des salles où on a mis des cheveux qu'on avait coupés, où on a mis des valises. À un moment donné, je me suis retrouvée devant une salle où il y avait des appareils, des fauteuils roulants, des béquilles, des cannes, mais plein. Et je me suis sentie un peu comme dans la cuisine, dans le home. Vraiment, le sol...
Où vous vivez la mort de votre mère.
Ouais, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Et le mot a pris toute sa consistance là.
Donc vous n'avez pas, par exemple, quand vous êtes rendu au mémorial de Nyamata, donc au Rwanda, à 35 km de Kigali, dans cette église quand même, où 5000 Tutsis ont été tués le 15 avril 1994, vous n'avez pas ressenti la même chose dans ce lieu que lorsque vous êtes rendu à Auschwitz-Birkenau.
C'était après Auschwitz. À Nyamata, c'est... Il y a un endroit dans cette église où les mères avaient mis tous les petits-enfants pour ne pas qu'ils soient écrasés par la foule pendant qu'ils étaient cachés. Et quand les tueurs sont rentrés, cet endroit était dans leur dos. Donc ils ont tué tout le monde. Ils n'ont découvert ces petits qu'à la fin. Ils les ont tués en les balançant contre les murs. Et l'église est restée comme ça, avec ce tas d'habits et ces petits tas d'ossements de bébés. Je le raconte comme ça, mais je ne peux pas mettre un mot là-dessus.
C'est pour ça que vous écrivez.
Voilà.
Alors, vous avez rencontré de la fraternité du côté de la communauté juive et même fraternisé avec le philosophe André Glucksmann, qui nous a quittés il y a peu. Glucksmann qui était toujours sur le front de l'engagement. On va l'écouter ici en 2014 à propos de la Tchétchénie.
C'est pas pour 2-3 jours que ces images m'obsèdent, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Je peux vous dire que bon, j'étais môme. À 5 ans, j'ai vu les gendarmes qui emmenaient les gens, juifs, les jeunes. Bon. Ma mère a résisté, je ne suis pas parti, elle non plus. Mais depuis ce temps-là, ce qui m'obsède, c'est le silence entier du monde entier devant ce genre de choses. Or, en Tchétchénie, il y a 40 000 gosses qui sont morts du fait de l'invasion russe. Donc là, il y a quelque chose qui m'obsède, c'est notre silence. Mais pour une fois, je sais que je raterai ma vie, parce que si on n'arrête pas ça, tout ce que j'ai fait n'a aucun sens.
C'est comme ça que vous l'aimiez, André Glucksmann, Annie Caïté-Sijozon?
Oui, et ça m'émeut beaucoup de...
Vous avez été proche, hein, vous avez été proche. Vous avez travaillé avec son fils, Raphaël Glucksmann, qui a réalisé ce documentaire « Tuez-les tous ».
Oui, c'est comme ça que j'ai connu la famille. J'ai connu d'abord Raphaël, et puis je ne savais pas qu'André Glucksmann était philosophe, qui était connu, etc. Enfin, donc, quand je suis rentrée dans leur famille, je suis rentrée dans une famille d'un ami, comme on va chez un copain, et j'y ai trouvé une place. Oui, je ne sais pas. Depuis 15 ans, c'est devenu ma deuxième famille. Quand je me suis mariée, c'est Glux, on l'appelait Glux, qui m'a amenée en mon mari. Et c'est vrai que j'aimais ça de lui, cette colère. Cette colère qui ne trie pas les douleurs. Il parle de lui, enfant. Il parle de la Tchétchénie. Il a parlé des Tutsis de la même façon. Et c'est cette idée de refuser tout ce qu'on essaye de plaquer sur les histoires, et notamment le silence. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de pire.
Vous parliez ensemble de ce génocide Tutsi, vous préférez dire génocide Tutsi que génocide rwandais, parce qu'il y a des gens qui nient la terminologie de ce mot génocide à propos du Rwanda, en disant qu'il y a quand même de grandes différences entre ces deux tragédies. Les juifs, eux, ont été traqués dans différents pays, par différents peuples, alors que là, on a des Rwandais qui massacrent d'autres Rwandais.
Il me semble qu'en France, c'était des Français qui massacraient d'autres Français. Après, chacun fait comme il veut.
F comme fil d'Ariane.
Annie Caïté-Si, vous avez des phrases qu'on peut emporter un peu sur une île déserte, par exemple celle-ci, mais elle donne à réfléchir et elle produit des questions, bien sûr. Vous écrivez À 20 ans, je prenais conscience, dans mon pays d'adoption, que mon origine fondait comme peau de chagrin et ne serait bientôt plus qu'une tache noire. D'où ma question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours un fil d'Ariane entre vous et l'Afrique, mais que c'est un fil quand même fragile?
Oui, et c'est pas l'Afrique, c'est le Rwanda. C'est fragile parce que le Rwanda, je le porte dans mon cœur, mais ce n'est plus le Rwanda, vraiment, de mon enfance. On me demande souvent pourquoi ne pas retourner vivre au Rwanda, etc. J'ai essayé. C'est vraiment comme de dire à quelqu'un d'aller vivre dans un cimetière. Pour moi, c'est la sensation que j'ai.
Qu'est-ce qui est devenu cette phrase dans votre vie à vous ? C'est une phrase qui a été prononcée par le docteur Nasson, c'est un psychiatre rwandais, et il dit « Nous sommes submergés par les eaux, nous nageons dans la vase ». Une drôle de phrase pour un psychiatre.
Oui, Nasson, il est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, était un homme exceptionnel s'il en est. C'était le seul psychiatre au Rwanda pendant des années. Quand il est mort, il y a une amie rescapée qui m'appelait, elle m'a dit « On l'a tué ». On l'a tué tous avec nous aussi, parce qu'il nous apportait les uns les autres. Et je suis allée le voir avec Chouti. Et en fait, cette jeune fille, elle avait la bouche qui cicatrisait. Elle n'avait plus de bouche, elle avait la peau qui cicatrisait. Et ça se refermait, elle ne pouvait plus manger. Donc il fallait se cotiser pour qu'elle aille en Afrique du Sud, pour qu'on lui rouvre un peu la peau, pour laisser un trou pour faire passer une paille. Et donc quand je suis allée le voir avec cette jeune fille, j'avais écrit partout en France. Et en tout cas, en France, on m'avait répondu, les contacts que j'avais eus, qu'elle avait été bien soignée pour une Africaine, justement. Et on devenait fous les uns les autres, les autres rescapés avec qui j'étais. Et j'ai été avec Chouti voir Nasson et il nous a dit, voilà, on est là tous les trois, submergés par les eaux. Il faut qu'on trouve une solution. Soit on se débat et celui qui arrive, il sort, mais il risque de noyer les autres. Soit on hisse l'un, mais bon, les deux autres... on risque d'y rester, ou alors on trouve un autre moyen. Et l'autre moyen, c'est de trouver un endroit pour vider la vase petit à petit. On y restera longtemps, mais c'est le seul moyen pour qu'on reste en vie.
C'est une image qui vous aide, ça, pour vous-même ?
Oui. C'est un travail de toute une vie pour savoir quoi faire de cette mort, qu'elle ne nous emporte pas. Et peut-être... Là, je pense à mes enfants tout à coup, que ça ne soit pas eux qui se la récupèrent, la vase.
On a parlé un peu de votre mère Speciosa, mais on n'a pas parlé de celle qui vous aide peut-être à respirer en dehors de ce Rwanda. C'est votre grand-mère, son prénom ?
Domitil.
Domitil, qui vous a fait un grand cadeau, celui de mourir à 98 ans dans son lit. Alors maintenant, vous pouvez penser à elle dans un coin de la planète qui s'appelle Derbent. En Ouzbékistan, donc vous êtes installée avec mari et enfant en Asie centrale, parce que votre mari est en mission là-bas. Mmh. À quoi ça ressemble rapidement, Derbent, et comment on fait pour y accéder ?
Alors, c'est un tout petit village qui est au milieu de nulle part. On y accède par un vieux train soviétique de nuit qui fait beaucoup de bruit. Et c'est un endroit qu'on aime beaucoup, où on va quand on peut. Parce qu'on peut être dans une famille avec tout plein d'enfants. Et quand je vois tous ces enfants jouer, et ils n'ont pas une langue commune. Mes enfants, ils parlent un peu russe. Et on est avec cette famille de façon tout à fait naturelle. On se parle peu. Et je pense qu'on s'aime vraiment beaucoup. Et il y a une petite fille orpheline. Je pense que c'est pour ça que je suis attachée à cet endroit. Qui, quand je la regarde, je pense que je me vois.
Vous lui avez appris à dire bonsoir, bonne nuit en Kinyarwanda ?
Non, mais elle aime beaucoup que je lui fasse des tresses. Voilà. Et on s'assoit et on fait des tresses. Et c'est un moment qui me fait particulièrement du bien.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Annie Kayité-Sijosan d'être venue nous parler de votre nouveau récit « Même Dieu ne veut pas s'en mêler ». Un récit qui est paru aux éditions du Seuil. Ben moi, je dirais pas non à un petit Tracy Chapman, vous voyez ?
Merci beaucoup pour l'invitation.
Que vous avez programmé avec Baby Can I Hold You ? Je vous ai mis un vent, là, comme dirait ma fille.
De l'amour.
Voilà.
sorry. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio. Et bien sûr, derrière ce bon poste, chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Maïr Guven. À la semaine prochaine.
Oh, I do love this.